Alors, nous voilà de retour aux amateurs de sport week-end. Juste un petit rappel que vous pouvez toujours m'écrire sur Twitter, @commercialJérémyFilosa, JEREMYFILOSA. Et pendant ce temps-là, nous, on va aller discuter avec notre expert sport business, Ray Lalonde. Salut, Ray.
Salut, Jérémy.
Ray, il y a beaucoup de sujets, donc beaucoup de pain sur la planche pour nous aujourd'hui. Commençons avec Tiger Woods, qui vraisemblablement là ne jouera pas au golf, en tout cas pas pour un avenir rapproché, ça c'est certain. On ne sait même pas s'il va pouvoir revenir au jeu. Et donc, c'est encore une fois une autre tuile qui tombe sur la PGA. On a déjà parlé de la perte de Tiger Woods dans le passé pour toutes les autres raisons qu'on connaît, ses problèmes de dos, ses problèmes à l'extérieur du terrain et tout ça. Mais comment ça influence maintenant, encore une fois, négativement, la PGA qui espérait mettre la table là, au printemps avec le Masters et Tiger, là?
Jérémy, la PGA Tour n'a jamais été en aussi bonne santé à tous les niveaux. Et c'est évidemment grâce à l'impact de Tiger Woods depuis son entrée en 1997.
Ouais.
Tiger Woods, non seulement a-t-il créé une vague de golf et un tsunami d'effets sur l'intérêt dans le golf, l'envie de jouer. Il nous a mis quasiment, Jérémy, des bâtons dans nos mains. C'est impressionnant.
Ah oui, absolument.
C'est impressionnant ce qu'un athlète, dans un sport qui n'est pas un sport d'équipe d'abord, puis qui n'est pas un sport non plus totalement accessible à cause du prix,
ouais,
à cause le coût de l'équipement, à cause de l'accès au terrain qui sont parfois privés. Ça prend un abonnement, Jérémy. C'est compliqué, le golf, dans ce sens-là. Puis c'est pas un sport, tu sais, qui va dans les milieux urbains chercher les jeunes facilement. Tiger Woods a rendu ça mainstream,
ouais,
comme on dit en anglais.
Absolument.
C'est devenu abordable, accessible pour tous. On avait envie d'être un peu comme Tiger. Il a rapproché certainement le golf des Afro-Américains, des minorités qui étaient peut-être exclues auparavant. Ça a été vraiment, honnêtement, peu importe ses frasques, ses difficultés, ses problèmes et ses succès, là, ça a été peut-être un des top 3-4 athlètes dans l'histoire du sport depuis 50 ans, là, en termes de l'effet. Et moi, j'appelle ça The Tiger Effect.
Écoute, sur les terrains de golf, là, tu recules 20 ans, Ray, là, c'était difficile de trouver un tee time. Puis il y a plusieurs terrains qui avaient beaucoup augmenté leur prix parce que la demande était tellement forte.
Tout à fait. Et ça se poursuit. Le golf vit des moments où, à un moment donné, Jérémy, à cause de Tiger, il y a beaucoup de construction de terrain.
Exact.
Pas juste au Québec, mais partout.
Exact.
Depuis quelques années aux États-Unis, là, j'ai pas le chiffre en tête précis, mais j'avais fait l'étude il y a quelques mois, là. Je pense qu'il y avait comme une fermeture d'à peu près 200 terrains par année aux États-Unis.
Ah.
Là, je parle de fermeture de terrain.
Ouais, ouais.
Pourquoi? Parce que toutes sortes de raisons, Jérémy, dont la technologie, dont les autres sports, dont l'accès, dont la jeune génération, dont les médias sociaux, et ainsi de suite. Mais ultimement, le golf vit des moments qui sont parfois difficiles. Tiger Woods, ça a été quelqu'un qui a surtout mis au monde une génération de jeunes golfeurs qui maintenant dominent comme une vague. Littéralement, c'est impossible de prédire d'une semaine à l'autre qui va gagner. Il y a tellement... Ça me fait penser au tennis féminin.
Mm-hmm.
Une fois que tu sors Serena Williams de l'équation, maintenant elle est plus âgée, elle est moins performante, mais là, qui va gagner? Ah, c'est pas toujours Osaka. C'était Iga Swiatek qui a gagné Roland-Garros en octobre dernier. Tu sais, c'est toujours de jeunes filles, jeunes femmes qui surprennent de semaine en semaine. Ben, c'est ça au golf. Quand c'est pas Rory McIlroy, c'est Jordan, ouais, Spieth. Quand c'est pas lui, c'est Morikawa. Quand c'est pas ces gars-là, c'est Dustin Johnson, et ainsi de suite. C'est fou la qualité des golfeurs. Et ils ont tous, à quelque part, été inspirés par Tiger Woods. L'effet Tiger Woods, c'est la télé. Des audiences télé, Jérémy, le samedi, dimanche, quand Tiger joue,
ah,
il,
ouais,
est en... Il est parmi les aspirants, ça augmente de 20 à 190% l'écoute télé. Les produits de golf de Nike, tu sais, ils sont plus dans les bâtons maintenant, mais dans les vêtements de golf. Tout le monde voulait être habillé comme Tiger.
C'est sûr.
Tiger a changé la façon qu'on porte moins de polo maintenant, on porte plus de chandail de golf.
Mm-hmm.
L'effet du chandail rouge le dimanche.
Absolument.
Tiger Woods, l'aspect athlétique. Tu sais, quand tu penses à des John Daly à l'époque, puis d'autres golfeurs qui étaient moins performants athlétique-wise, si on veut.
Ouais.
Mais aujourd'hui, les jeunes sont tous dans la salle de musculation, sont tous au conditionnement, au cardio, à l'entraînement.
C'est
Tiger qui a créé cette vague-là. Jack Nicklaus, c'était pas un monstre des poids et haltères, là.
Non, non, non.
J'enlève rien à Jack Nicklaus, là, mais Tiger Woods a changé littéralement C'est un joueur transformationnel.
En tout cas, j'ai été vraiment estomaqué de voir les images cette semaine là, lorsqu'il a été victime d'un accident de la route dont on n'a pas encore tous les détails. Là. D'ailleurs, on va en parler avec le docteur Francis Fontaine un peu plus tard des opérations qu'il a dû subir, mais je pense pas qu'on va le revoir sur un terrain très, très bientôt. Parlons un petit peu de la NFL qui va confirmer qu'elle va passer à 17 matchs. Ça fait à peu près 2-3 ans que c'est dans l'air, qu'on allait augmenter le nombre de matchs. Je sais pas si ça va venir aussi avec une diminution des matchs pré-saison, parce qu'on a parlé à un moment donné aussi de passer à seulement un match préparatoire et tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire pour la NFL de passer de 16 à 17 matchs?
Bien, l'enjeu business, Jérémy, c'est beaucoup, 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 beaucoup plus d'argent. Et ça veut dire que les réseaux qui sont tous en négociation, ça a été une grosse semaine puis une bonne semaine pour la NFL parce qu'ils ont réglé l'entente télé pour les prochaines années avec Disney. Disney, ça implique ABC puis ESPN. Puis pour la première fois depuis 2006, ESPN, ABC rentrent dans la rotation des Super Bowls. Fait qu'ils vont avoir droit à leur tour eux aussi, comme CBS, NBC et Fox. C'est important ça parce que le Super Bowl, dans une seule journée, peut te ramener 500-600 millions en revenus publicitaires d'un seul coup. Alors, c'est une grosse plateforme pour eux. On sait qu'ESPN, évidemment, c'est le leader sportif mondial en termes de contenu. ESPN tient beaucoup à la NFL. C'était pas une relation qui allait... C'était pas un contrat qui allait pas renouveler. Mm-hmm. Sauf que le coût pour renouveler maintenant est beaucoup plus cher que dans le passé. Les chiffres vont sortir bientôt. Mais je te dirais, Jérémy, que... Après 10 ans de revenus gigantesques du côté de la NFL qui leur permettent de remettre un chèque à chaque équipe, il y a 32 équipes, en début de saison d'à peu près 275 millions de dollars US, juste pour le partage des revenus, ben on regarde du côté des 10 prochaines années générer 100 milliards de dollars.
Wow!
Fait que là, je répète ça, là, 100 milliards de dollars, c'est 10 milliards par année en droits télé. Il y a 4-5 réseaux. Alors, regarde le coût. Regarde le nombre de matchs. 16 matchs, 17 matchs. Jérémy, ça fait depuis 78 que 16 matchs à l'antenne pour la NFL par équipe. Ça va aller à 17. Fait que tu viens de rajouter une fraction de plus. Une fraction de plus dans des chiffres qui étaient déjà imposants, c'est ça de plus que les réseaux vont payer pour obtenir les droits. C'est ça de plus que les partenaires commanditaires vont payer à la NFL pour être associés au produit. Puis évidemment, l'important, c'est que l'association des joueurs, Jérémy, au fil des 10 prochaines années, c'est 5 milliards de dollars de plus dans leur poche.
Par année?
Non.
Non.
Au fil des 10 prochaines années.
Sur le total des 10 ans.
Sur le total, en termes de nombre de joueurs, plus de joueurs dans une équipe, dans un effectif, ça va augmenter de 2-3 joueurs.
Ouais.
Un pourcentage à 1,5% de plus dans la convention collective, dans le partage, qui va équivaloir à peu près 5 milliards de dollars de plus de salaire que les joueurs et de nouveaux joueurs vont pouvoir bénéficier.
Parce qu'il faut mentionner que le salaire minimum est plus haut dans la Ligue nationale de hockey que dans la NFL.
Oui, ça c'est vrai.
Donc les plus petits poissons vont pouvoir...
Ils vont pouvoir en avoir plus.
Exact.
Puis tu vas avoir de plus en plus de contrats dans le 30, 40, 45, 50 millions par année à des grands joueurs, que ce soit Aaron Rodgers ou Russell Wilson ou Patrick Mahomes, qui déjà, lui, s'est retrouvé l'an dernier à signer une entente de 503 millions de dollars. Au fil de 10 ans, donc tu sais, c'est 50 par année.
Ouais.
Tu vas en voir de plus en plus, évidemment, pour des joueurs de franchise comme ça. Mais la NFL a beaucoup de richesses. Les réseaux, Jérémy, ne peuvent se permettre de ne pas renouveler. Fait que, qui a le gros bout du bâton? Il n'y a pas deux bâtons, il y a un seul bâton. C'est la NFL qui l'a.
Exact.
Puis les réseaux plient les genoux et payent. Pourquoi? Parce qu'ultimement, ça amène une autre question. Pourquoi on continue de payer pour la télé traditionnelle? Parce que le sport en direct fait partie prenante de la consommation sur une télé classique.
Exact.
Même si on se dirige, tout le monde, vers le stream, puis pour les choix à la demande, sur les Netflix, puis les Amazon, puis les Prime Video, puis les Apple TV, bien sûr, ça reste que le sport, c'est ça qui garde la télé traditionnelle en vie.
C'est sûr.
Littéralement.
T'as pas le choix de la regarder en direct, sinon...
Exact. Mais c'est pour ça que de plus en plus, Jérémy, les autres, c'est-à-dire ce qu'on appelle « over the top », OTT, Apple TV, Netflix, Amazon, Crave, toutes les bundles possibles, ils se mettent les pieds justement dans le sport en direct de plus en plus. Ils sont pas prêts à acheter des packages d'une année complète avec plusieurs matchs, mais ils font un test, ils font plusieurs tests pour voir comment la réaction est, parce qu'évidemment, ils ont un plus grand réseau d'abonnés qu'une chaîne traditionnelle. Quand tu passes à Facebook, ils ont 2,2 milliards d'abonnés sur la planète. NBC, CBS, Fox sont pas dans ces galaxies-là, Jérémy.
Ouais, ouais.
Fait que la NFL sait très bien, et les autres ligues aussi, que d'aller vers les réseaux sociaux pour la diffusion en direct, ça, c'est une façon d'aller conquérir un autre groupe de partisans potentiels qui ouais. n'ont pas accès aux produits aux États-Unis nécessairement. Alors, c'est ça l'avantage
c'est
des
sûr.
Plateformes c'est... numériques dans la consommation du sport. Parce Mais que... entre-temps, on a besoin des plateformes traditionnelles.
Parce que, tu sais, comme tu viens de le mentionner, NBC peut bien avoir une émission de télé, mais le gars qui va la regarder en streaming, il la regarde pas sur NBC, puis il peut la regarder quand il veut, tandis que dans le sport, il est un peu forcé. Alors, quand on parle de sport business, on parle pas souvent ou très nécessairement d'un entraîneur-chef, mais le Canadien, cette semaine, procède à un changement d'entraîneur. En termes de sport business, ça veut dire quoi? Ça change quoi pour le Canadien de voir Claude Julien quitter et Dominique Ducharme arriver?
Bon, premièrement, là, c'est une décision qui est fréquente dans le sport. Les entraîneurs, tu sais, c'est une vie de pacha un peu. Tu te promènes de place en place, puis on va parler de Thierry Henry après, là, mais tu sais, Claude Julien savait que le jour qu'il signait avec les Canadiens, il s'est négocié une superbe entente, 5 millions de dollars par année.
Ouais.
Il a gagné ses épaulettes dans sa vie, il méritait, il a gagné une Coupe Stanley. Il a déjà été avec les Canadiens à l'époque où j'étais là. Claude Julien, c'est un bonhomme intègre qui mérite le respect de tous, mais ça fait partie de la vie, ça, dans le sport. Plus t'es haut placé, plus t'es vulnérable. Alors, dans la business des Canadiens, Jérémy, ça veut rien dire. Ça affectera pas la vente, mm-hmm. ça affectera pas l'intérêt pour les consommateurs, ça affectera pas la valeur de la franchise. Littéralement, là, c'est une autre journée, un autre mercredi comme un autre
ouais.
pour les Canadiens. On change de coach, on veut secouer l'équipe, pour les raisons de hockey que tout le monde discute tout le temps. On peut débattre ça tant qu'on veut. Mais c'est un coach, sa job, c'est d'être un ambassadeur, le visage, le front de l'organisation,
ouais.
s'exprimer avec les médias tous les jours, être quelqu'un en qui on a confiance. Lui, sa job, c'est le test qui débute maintenant. Il va falloir qu'il donne des résultats lui aussi.
Ouais.
Sa carrière pourrait être vraiment bonne. Il est certainement qualifié. Pour Claude Julien, Kirk Muller, ben, c'est ça la vie de coach. Cherche un autre job tout de suite. Essaie ouais. de retourner dans ton réseau. Bonne chance avec tout ça.
Sauf
et puis, merci de tes services.
Sauf que du côté du CF Montréal, là, c'est une autre histoire. Parce que tu perds un entraîneur-chef qui a une connaissance, une visibilité internationale. Je veux dire, cette semaine, j'écoutais le point de presse qui annonçait le départ de Thierry Henry. Tous les grands réseaux de sport sur la planète étaient branchés sur ce point de presse-là du CF Montréal, ESPN, Sky Sports, nommez-les. Là, il y a un impact beaucoup plus réel là, au niveau marketing.
Absolument.
Ouais.
L'enjeu business là, pour ça, c'est qu'à quelques semaines du début de la saison, littéralement fin février, l'entraîneur, honnêtement, là, c'était le coup du siècle de l'avoir signé en novembre 2019, Jérémy.
Ouais, ouais.
Puis je sais que toi, tu as couvert ça mieux que quiconque. Mais ultimement, là, il a pas coaché un match au Stade Saputo. Sérieusement, il a pas pu avoir l'effet qu'on souhaitait. L'impact, le CF Montréal, n'a pas pu exploiter, optimiser la présence d'une légende mondiale comme Thierry Henry. Puis ça, je blâme personne pour ça. Ce que je veux dire,
c'est
quelle occasion ratée. Mais je vais t'emmener sur mon autre approche, c'est de dire, Thierry Henry, je suis un peu déçu. Parce que quand tu rentres dans cette business-là, il faut que tu sois all-in. Il faut que tu sois complètement engagé.
Ouais.
Ça va venir avec des difficultés, y compris de la pression sur la famille. C'est pas simple. Puis la pandémie, ben tout le monde est obligé de composer avec une pandémie. Alors, Thierry Henry qui dit, oui, mais j'ai pas vu mes enfants depuis longtemps, puis tout ça. Oui, c'est tough, désolé. Mais t'es-tu in ou t'es pas in? Parce que tu peux jamais avoir un plan d'abandon quand tu signes pour une entente comme ça. Fait que j'en veux pas, là.
Ouais.
Mais c'est dommage qu'il ait pris la décision parce que ça fait très mal à l'équipe, ça fait très mal à la MLS, ça fait très mal à la confiance que les partisans, les consommateurs ont dans cette industrie-là.
Ah, c'est sûr. C'est
quand
sûr.
Quelqu'un signe, c'est sûr que c'est une bonne raison de dire « Oui, mais j'ai pas vu mes enfants depuis un an. » Bien sûr.
Ouais, ouais.
Mais Jérémy, il n'y a pas de place là-dedans là, pour ne pas être complètement submergé par l'engagement.
Il y a une chose là-dedans. Je pense que le timing de la décision de Thierry Henry arrive à peu près au moment où les rumeurs ont commencé à sortir de Tampa que le CF Montréal avait contacté les gens du Raymond James Stadium pour s'installer là-bas. Et là, lui, il s'est dit, bon, ben garde, écoute, s'il n'y a pas moyen de jouer ici, je vais quitter. Mais il y a une chose, par contre. T'sais, reculons il y a un an. On a vécu la même situation avec Nacho Piatti. C'était écrit dans le ciel que ce gars-là ne voulait pas revenir venir. On a poussé. On a attendu jusqu'au début du camp d'entraînement, à quelques jours seulement du début de la saison, pour finalement se rendre compte qu'il ne voulait pas revenir. Puis finalement, il est parti avant même le début du tournoi de la Ligue des Champions. Cette année, on se fait refaire le même coup. Écoute, Ray, j'avais écrit un texte au mois d'octobre dernier disant que c'était une réelle possibilité qu'il ne revienne pas. Et de se faire prendre, encore une fois, excusez l'expression, un peu les culottes baissées, avec maintenant un entraîneur qui quitte, et non le meilleur joueur d'équipe, mais à quelques jours du début du camp, tu sais, il faut que tu sois mieux préparé que ça, je pense.
Absolument, puis t'as bien dit, là, tu l'avais souligné, tu l'avais abordé comme étant une possibilité. Les équipes doivent ne pas trop miser, ils doivent être plus préparés pour des alternatives, des solutions, sinon, tu te fais prendre, t'as pas de préparation, la saison s'apprête à débuter, puis tu vas faire quoi?
Ouais.
C'est certain qu'on savait, au cours de l'été dernier, qu'on allait faire face à une deuxième vague de pandémie, qu'elle allait être solide, elle l'a été, elle a bouleversé d'autres saisons sportives. C'est apparent que la MLS va devoir reprendre ses activités de façon modifié,
exact,
avec les équipes canadiennes aux États-Unis encore.
Ouais.
Donc là, c'est compliqué. Sachant tout ça, sachant que tu as des gens qui tiennent à leur poste puis qui tiennent aussi à leur famille.
Mais tout ça s'accumule. Il y a trop d'accumulation.
Exactement. Il y en a eu trop de ça, effectivement, avec cette franchise-là.
Ray, merci beaucoup. On se reparle dès la semaine prochaine sans faute. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Alors, on s'arrête le temps d'une courte pause et au retour, je vous parle de Laurent Simon qui revient avec l'équipe de l'Impact ou de CF Montréal. Appelez ça comme vous voulez. Alors, petite pause et ce beau programme des amateurs de sport week-end se poursuit dans quelques instants.